auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne à votre avis sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous accompagner dans cette discussion sur le référendum burundais de ce jeudi qui consolide les pouvoirs du président Pierre Nkurunziza et lui permettrait de briguer éventuellement deux septennats à partir de 2020. Alors l'opposition interne menée par Agathon Roisin a battu campagne en faveur du non. Alors selon vous, quel sera l'impact de ce scrutin sur la crise politique qui perdure depuis 2015 au Burundi? Vous pouvez nous appeler en direct au 001 202 205 26 33, et l'on est à l'heure du dépouillement effectivement. Alors les Burundais ont voté en nombre sur une révision constitutionnelle destinée à renforcer le pouvoir du chef de l'État, et si le oui l'emportait, il aurait ainsi donc la possibilité de rester en fonction jusqu'en 2034. Les Burundais ont afflué très tôt dans quelques 11 000 bureaux de vote. Un fort déploiement sécuritaire avait été prévu pour ce scrutin, durant lequel 4,8 millions d'électeurs étaient appelés à s'exprimer donc sur cette réforme. Alors donc le comptage des bulletins a commencé dès la fermeture des bureaux à 16h, et la commission électorale indiquait qu'elle publierait les résultats après avoir reçu tous les procès-verbaux. On a un auditeur en ligne, Ibrahim Chako Wembo, en République démocratique du Congo. Ibrahim, bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous.
Oui, bonsoir madame, bonsoir.
On vous écoute, Ibrahim.
Allô?
On vous écoute, à vous la parole, sur le référendum au Burundi.
Je m'appelle Ibrahim Chako, je suis en RDC Congo.
Oui, alors vous avez laissé votre numéro de téléphone. Est-ce que vous avez entendu le sujet? Est-ce que vous êtes au courant du sujet à commenter, le référendum burundais de ce jeudi?
Oui, j'ai suivi le sujet, votre sujet sur Facebook, et c'est pourquoi j'ai laissé mon numéro pour que je puisse discuter avec vous quand au moment où vous serez en ligne sur l'atelier. Merci beaucoup d'avoir m'appelé. Et je suis vraiment content, tout ce que vous m'avez amené, je vais défendre aussi ce qui se passe à Burundi pour le moment, pour les fantômes de ce jeudi.
Oui, je n'ai pas bien compris, qu'est-ce que vous avez commenté sur le référendum?
Bon, d'après moi, concernant le référendum, je dis concernant le président qui est là comme Nkurunziza, je préfère vraiment que le grand électeur, je suis péri de Nkurunziza comme moi, le président qui est le peuple burundais, ne l'aime pas même, ne l'aime pas. Je me souviens l'année passée, si c'était en 2016, si je me souviens, si je ne m'abuse pas, je sais ce qui s'est passé à Burundi. Le président Burundi avait fui au Tanzanie, et concernant ce qui s'est passé, d'ici là, je fais des référendums, et je sais qu'il y aura toujours des problèmes,
Merci beaucoup, Ibrahim, pour votre témoignage. On a notamment le témoignage de Moïse à Kigali. J'aimerais bien qu'on puisse le joindre. Il a écrit sur notre Facebook: le Burundi traverse une crise politique et économique due à l'entêtement de son président, dit-il, de vouloir conserver à tout prix son pouvoir. Ce référendum, dont les résultats sont connus d'avance, ne vient que couronner l'ensemble de ses stratégies, comme pour rivaliser avec son frère d'en face, pour dire Paul Kagame. Et pourtant, dit-il, les deux contrastent en ce qui concerne le bilan de gestion. Le dernier a unifié et transformé son pays, dit-il, faisant reculer la pauvreté et les inégalités. Je suis congolais travaillant à Kigali. C'est perceptible le changement, dit-il. Quant à Nkurunziza, le Burundi ressemble à un village quand on veut le voir par rapport au Rwanda. C'est Moïse à Kigali qu'on pourrait essayer de joindre. On a Benoît qui est en ligne. Benoît en RDC, bonsoir.
Oui, je suis en ligne.
À vous la parole.
Oui, d'accord. Par rapport aux retouches de référendum, tout ce qui vient de se passer avec Pierre Bourdieu, lui pense peut-être que le Burundi est un ferme pour lui, qui est un peu plus vieux, qui s'est en fait vraiment l'idée. Il a lancé le pouvoir, c'est pour le peuple, par le peuple, ce n'est pas pour les dirigeants. Les dirigeants sont là juste pour guider. La façon dont M. Pierre Bourdieu est en train de faire des choses, et comme si il cherche à changer un pays pour un royaume. Alors, chose plus grave et qu'on n'arrive même pas à la loi ou le règlement de pays d'un pays à l'autre. Prenons l'exemple, le cas de Tunisie à l'RDC, le pays de Joseph Kabila. Vous savez qu'ils sont en train de voir comme étant un royaume, soit un fabrique de la carte, qui lui peut-être peut faire de tout ce qu'il veut, alors qu'il est condamnable. Alors, le référendum lui-même est en train de nous témoigner que le juste lève du président qui est en place. Il continue toujours à dire qu'on a brisé le mandat, oui, c'est bien, brisé le mandat, c'est bien, toucher les élections, c'est bien, oui, j'ai touché le référendum, c'est bien, mais il faut attendre ce qui va venir après pour le mandat, parce que c'est ce qui se passe maintenant, ce n'est pas de garder le règlement, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de connaître, la lutte, faire de l'Afrique, nous condamnons ce système de ce que les Africains en train de juste de ranger la politique à l'Afrique, nous devons aussi copier comme ils sont des petits collègues avec les Occidentaux, nous devons aussi faire le tout, même copier-coller ce qui se passe aux États-Unis, en France et partout ailleurs. Quand je te demande à être à la fin, tu dois laisser le pouvoir à l'autre, tu dois guider le peuple à bien orienter la politique de tous les plans, social, culturel, santé, tout comme ça. Mais voilà ce qui se passe. C'est tout quelque chose alors que les pays sont démocratiques.
Merci beaucoup Benoît qui pense que les dirigeants doivent changer leur système. Je rappelle que vous avez aussi écrit notamment briguer les mandats, retoucher la constitution, truquer les élections. C'est un faux système qu'il faudra démanteler chez nous en Afrique. On a Pancras Louvou qui est au Bénin, à Cotonou. Bonsoir Pancras.
Bonsoir, madame la journaliste, et bonsoir, Réa Africain.
À vous la parole, voilà, à vous la parole.
Évidemment. C'est pas là aujourd'hui du référendum qu'a organisé, malgré tout, le président burundais, Pierre Nkurunziza. C'est d'autant plus dommage, madame la journaliste, de constater qu'au 21e siècle, l'Afrique a encore des présidents qui se croient au 20e ou au 19e siècle où la vie humaine n'a absolument aucune importance. C'est le cas actuellement de Nkurunziza, tellement fou du pouvoir, prêt à sacrifier son peuple qui a commis peut-être un grand péché de le mettre au pouvoir en 2008. Alors, quelle sera l'issue de ce référendum? C'est comme on le dit en Afrique ici, on connaît déjà celui qui va gagner les élections avant même l'organisation des élections. Donc le résultat, c'est que ça ne sera pas quelque chose. Une victoire, même si le peuple fait sinon, soyez sûr que le résultat qui sortiront des unes sera oui. L'Africain a la magie de transformer le non en oui. Alors, par conséquent, c'est la souffrance de ce peuple-là qui va encore continuer. Il n'y aura aucun dénouement dans cette crise de 4 ans, on passe désormais de 4 ans à 7 ans. Donc, c'est que le président a encore régné pendant plusieurs années à la crise économique. Donc, je disais que le Burundi est dans la crise sociale qui va encore souffrir actuellement dans ce pays-là. C'est dommage. Et je dis que la solution se trouve également dans la main de ce peuple. Parce que l'opposition étant diminuée, l'opposition actuellement est à l'image de l'opposition africaine, comme la majorité des alliés sont dans les îles, qui veut dire que l'opposition n'a plus la force de combattre. Comme le chef en appelle Pierre Nkurunziza. Donc le peuple a la solution en main. Et la solution, c'est bien là que le peuple populaire qui peut faire partie un homme comme ça. il s'en fallait que la solution là pour que l'on a pas du pouvoir. On ne peut pas attendre le battre dans les villes. On ne peut pas d'ailleurs le battre dans les villes parce qu'il y a dit que les élections en Afrique n'organisent pas de manière crédible. Même si le peuple vote contre quelqu'un, la personne sera tout pour que le résultat soit oui en sa faveur. Donc j'implore ce peuple, le peuple rwandais, à prendre son courage en main, à jouer comme un homme, à bien éteindre et à aller détruire ce pouvoir, c'est un pouvoir dictatorial prêtre à le tuer et tous pour régner. Je me demande même après avoir le tué, qui va diriger le président.
Merci. Merci beaucoup, Pancras. Ce que je retiens, en gros, de ce que vous venez de dire, hein, vous rappelez que finalement en Afrique, très souvent, on connaît déjà l'issue des élections avant même le scrutin. Il est vrai qu'on a peu de surprises, hein, finalement, dans beaucoup d'élections en Afrique. Donc ça, c'est une réalité que vous avez pointée du doigt. Vous avez notamment pointé du doigt le fait que beaucoup d'élections sont peu crédibles et vous rappelez que cette situation finalement au Burundi pourrait aggraver la crise économique et vous précisez bien, ça c'est la touche positive, que la solution est en Afrique et pas ailleurs. Nous avons Prosper Yesufu qui est au Bénin également. Bonsoir Prosper.
Bonsoir.
À vous la parole sur le référendum au Burundi.
Oui, justement, moi je crois que c'est déjà, il faut que les Africains prennent la conscience du fait qu'il y a, bon, là je parle spécifiquement des jeunes Africains, que nos dirigeants, ils ne sont plus du tout des gens en qui il faut avoir confiance. Parce que c'est des gens qui n'ont pas pitié de la population, du peuple à la base, de leur souffrance en fait. Parce que vous faites tout pour vous maintenir au pouvoir. Vous faites tout pour que la constitution soit truquée de la pire manière possible pour vous éterniser au pouvoir. Et vous ignorez que le peuple souffre à la base et vous n'avez même pas froid aux yeux de tuer des gens en les tirant à bout dessus comme cela. Mais ce n'est pas sérieux quand on voit ces gens tuer. Le président burundais, comme le président tchadien ou encore un autre président en Afrique, c'est des gens qui exaspèrent déjà. Ils exagèrent déjà dans leur manière de faire. Ce sont les choses qui découragent. Après, c'est pour dire que c'est les Occidentaux qui viennent créer la lumière ici en Afrique. Mais en réalité, non. En réalité, le vrai problème de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. C'est nos dirigeants qui ne nous laissent pas respirer. Parce que il faut déjà comprendre que vous êtes au pouvoir depuis des années déjà et vous voulez réviser. Lui, tout banalement, il révise à partir de 2020, il a encore 17 années, je sais pas, 14 années à faire devant lui. C'est malheureux quand on imagine que nous sommes dans un pays, la souffrance persiste, la situation économique ne s'améliore pas, la situation sociale, socio-économique, naturellement, elle ne s'améliore pas. Et qu'en même temps, ces présidents qui sont au pouvoir, qui ne font pas grand effort pour que les pays puissent évoluer, se disent encore qu'ils veulent rester au pouvoir pendant des années. Ça veut dire qu'on nous dit tout simplement que la souffrance va persister et va rester jusque plusieurs décennies encore. C'est malheureux qu'on pense à ces mêmes choses. L'Afrique, vraiment, est d'accord comme ça. Et on n'appelle pas à une certaine révolte, mais chercher quelle stratégie la jeunesse pourrait trouver pour quand même chasser, oui, je le dis franchement, chasser du pouvoir ces mangeurs, ceux que j'appelle les mangeurs de pouvoir, qui ne pensent qu'à leur poche, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à avantager.
Mais Prosper, très rapidement, avant qu'on puisse prendre d'autres auditeurs, vous parlez de la jeunesse. Quelle solution vous pensez qu'aurait devant elle la jeunesse pour changer cet état de fait que vous dénoncez, mais de manière pacifique, très rapidement?
Bon, d'accord. Là, je peux déjà dire que cette jeunesse, voilà. Et là, quand je parle de jeunesse, il ne s'agit pas de n'importe quelle jeunesse, parce que il suffit pas d'être jeune pour savoir diviser. Non, il s'agit de cette jeunesse d'abord qui a pris conscience du fait que oui, l'Afrique a besoin d'un développement, mais un développement d'une manière plus consciencieuse. Parce qu'il y a des jeunes là aujourd'hui, on en voit partout, hein, qui se font corrompre, qui épousent l'idéal, les vidéos de ces présidents qui sont au pouvoir. Vous voyez, c'est la jeunesse en réalité aujourd'hui qui doit chercher à à pouvoir à intervenir de temps en temps dans la chose politique, pouvoir soit opiner sur la qualité, pouvoir aussi se dire que oui, moi aussi je suis capable de faire quelque chose. Et une jeunesse qui prend conscience du saut du développement de l'Afrique.
De manière plus concrète, que la jeunesse, par exemple, je ne sais pas, se présente plus à des élections, voire même communales, locales ou autres.
Mais déjà, oui, quand je dis que la jeunesse participe à la chose politique, c'est déjà, par exemple, s'il y a une élection, des élections communales, des élections municipales, si vous avez l'âge, que vous avez le courage de participer, de mobiliser du monde, de chercher à convaincre, parce que la seule chose qui fait, qui nous fait perdre la main aujourd'hui, c'est justement le fait que nous aussi ne sommes pas sur le terrain et que nous laissions ces gens-là aller parler à la population, alors que la vérité, si vous voulez, j'exagère un peu, la vraie vérité, elle nous la connaissons. Donc,
merci beaucoup, Prosper. Je m'excuse. Merci beaucoup, Prosper. En fait, Prosper, effectivement, qui met en avant le fait qu'on peut éventuellement commencer peut-être par changer les choses au niveau local avec la proximité de la population. Avant de prendre Joël en ligne, je voudrais lire le commentaire de Rolf Laurent, qu'il pense que la commission chargée des résultats n'est pas indépendante. Il est au Mali. Le commentaire de Mamadou Traoré, qui lui a écrit, le président de Kourounziza fait la tête dure, mais il doit comprendre que tôt ou tard, il quittera un jour le pouvoir. Mais le mieux pour lui est de partir à temps et par la grande porte, dit-il. Il doit suivre l'exemple de quelques dirigeants qui ont su quitter à temps. Je ne sais pas si nous avons Joël en ligne.
Bonsoir, madame.
Oui, est-ce que c'est Joël?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous êtes dans quel pays, Joël?
Je suis en République du Bénin.
Au Bénin, on vous écoute.
Ok. Je suis très choqué par le président de la République, M. Pierre Nkurunziza. Quelqu'un qui a fait 10 ans au pouvoir, au lieu de céder la place à quelqu'un d'autre, il s'accroche au pouvoir pour dire qu'il va rester jusqu'en 2034. C'est dommage. C'est des choses qui ne peuvent jamais se passer en République du Bénin. Patrick Talon veut réviser la constitution, ça n'a pas marché. Mais je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe au Bujumbura, les positions de la Burundi ne sont pas bien sophistiquées. C'est pourquoi le président s'approche au pouvoir. C'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je pense que l'opposition doit s'organiser une fois encore pour renvoyer Pierre Nkurunziza du pouvoir. Parce que le pouvoir ne s'achète pas. Le pouvoir, c'est pas la famille de Nkurunziza seule qui va diriger le pouvoir. Moi, je suis contre. Mon avis, je suis contre. Et jusqu'à présent, je continue de contre. Parce que le pouvoir, c'est pas pour lui seul. Nous avons le pouvoir, on peut encore le référendum pour rester jusqu'en 2034. C'est pas bien, c'est pas bien.
Merci.
Voilà un peu le commentaire que moi j'ai à souligner.
Un grand merci, Joselle. Alors, il faut rappeler que selon un cadre du parti au pouvoir, ses membres avaient reçu pour consigne de se présenter très tôt aux urnes. Et Agathon Rwasa, le chef de la coalition Amizero Yabarundi, accuse notamment des responsables de bureaux de vote d'être entrés dans les isoloirs et d'avoir forcé les électeurs à voter oui. Et la Ligue de jeunesse du CNDD-FDD a fait du porte-à-porte pour inciter les électeurs à voter oui, selon des témoins. On rappelle aussi que le projet de révision constitutionnelle a été condamné par l'Union africaine, qui a refusé d'envoyer des observateurs. Et l'opposition en exil avait appelé au boycott du scrutin, le jugeant notamment incompatible avec l'accord d'Arusha, qui en 2000 avait ouvert la voie à la fin de la guerre en instaurant un système de partage du pouvoir entre Hutu et Tutsi et spécifiant notamment qu'aucun président ne pourrait exercer plus de 10 ans. On a Mamadou Traoré en ligne. Mamadou Traoré, non?
Mamadou Traoré, madame le bengiste.
On vous écoute.
Bien, je disais que Pierre Nkurunziza a intérêt de quitter le pouvoir le plus tôt possible, puisque on sait ce que j'ai fait va s'en suivre. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, il a intérêt à quitter très rapidement. Bon, moi, là, c'est mon hypothèse à moi personnellement, puisque j'ai vu des dirigeants qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir, mais qui ont mal fini. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, il y a de la jeunesse qui est là, qui est présente. Donc, il a intérêt à quitter avant qu'il ne soit trop tard. avant qu'il ne sorte. Il doit être un exemplaire. Il doit être un exemplaire parmi les présidents qui ont fait l'exemple. En Afrique, on en connaît beaucoup. Il y a des gens qui ont quitté à temps réel, donc il doit suivre ces traces-là pour quitter afin qu'il soit trop tard vraiment.
Mais Mamadou, est-ce que vous pensez qu'il ferait un tel geste, selon vous?
Bon, pas lui seulement. Il y a pas mal de présidents, pas mal de dirigeants, je dirais des dictateurs africains, mais en tout cas, qu'ils le comprennent, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, c'est mon humble conviction, qu'ils le fassent, c'est dans son propre intérêt. C'est quand il reste, il va mal finir. Donc, cela n'est pas bon pour son image, donc non pour l'Afrique. Parce qu'il va livrer la jeunesse à la boucherie, donc ça va tenir beaucoup à son image, donc il a intérêt. C'est mon humble conviction, mais je ne le pense pas qu'il le fera.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a Tidiane Botégué en ligne. Ah non, c'est Thierno Diallo qui est en Guinée. Bonsoir,
oui,
Thierno.
Bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs et des auditeurs. Malheureusement, nous ne sommes pas écoutés à Bujumbura.
Ben alors, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure que ce scrutin ne sera rien que de renforcer les machines répressives de M. Nkurunziza. Parce que ce n'est pas du tout d'élection. Il y a eu. C'était mal préparé parce que c'est seulement le seul opposant qui a resté au pays qui a pu participer à ces élections. Sinon, sans doute, le président Nkurunziza ne pourrait pas remporter ces élections. Mais nous savons tous, tout le monde sait déjà, les résultats sont connus d'avance. Le oui va remporter. Il a exercé le pouvoir de 2015 à nos jours avec des sanglantes répressions à l'endroit des citoyens burundais. Si le oui aussi arrive à remporter, parce que ce Cyril remportera encore, ça va de plus renforcer son pouvoir et ses machines répressives. Il fera encore des victimes parce que moi j'accuse les organisations sous-régionales et l'Union africaine. Parce que je ne vois pas ces deux institutions s'engager directement aller vers M. Nkurunziza pour le dire de stopper, de ne pas violer l'accord d'Arusha. Parce que tout le monde savait que l'accord Arusha était clair là-dessus. C'était deux mandats non renouvelables. Et aussi le respect de quotas de groupes ethniques, parce que le Burundi a plusieurs groupes ethniques. Le quota était défini dans l'accord d'Arusha, en présence de Boutros Ghali et le président Nelson Mandela et plusieurs autres élites africaines qui ont participé à la signature de cet accord en Arusha, en Tanzanie. Mais malheureusement, M. Nkurunziza ne veut pas céder le pouvoir. C'est quelque chose qui est très dangereux, qu'il devrait éviter parce que depuis 2015, nous ne pouvons pas compter le nombre de morts qu'il y a eu, des victimes, des blessés, d'exilés. Nous ne pouvons pas dénombrer tout ça. C'est quelque chose vraiment qu'il ne devrait pas faire parce qu'il pouvait.
Merci beaucoup, Thierno.
Quelqu'un de son parti, de FDD-CNDD, pour venir à la tête du Burundi, mais lui, il devrait s'en aller tout simplement.
Merci beaucoup, Thierno, qui rappelle effectivement que depuis 2015, la répression aurait fait plus de 100 morts et 400 000 réfugiés. Et d'ailleurs, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur ces exactions. Tidiane Botegueba a écrit sur notre Facebook, alors il pense que Agathon Rwasa vient de valider pour Nkurunziza, qui lui aussi avait l'envie de rentrer dans le club des présidents à vie, dit-il, car de ma connaissance, aucun référendum sur la révision constitutionnelle en Afrique n'a abouti à un non malgré la contre-volonté de la majorité. Cela nous démontre, dit-il, pour une fois de plus qu'en Afrique, il n'y a que des hommes forts à l'endroit de nos institutions. On a Hassan Omar en ligne pour terminer.
Oui.
Hassan, rapidement, on vous écoute.
Je crois que c'est un recul de la démocratie dans ce pays-là. Le Burundi, que nous sommes de plus en plus stressés et découragés de voir des institutions qui changent assez rapidement au profit du fauteuil et des gens qui sont au régime, des régimes qui sont au pouvoir. Nous espérons pour le Burundais l'espoir et la démocratie qui est effective et concrète.
Un grand merci à vous, un grand merci à tous nos auditeurs et à Thierro, le chèque Thierro, à la production. À très bientôt, au revoir.